Salut tout le monde, bienvenue à Angle Mort. Deux sujets aujourd'hui. Quand est-ce qu'on devrait s'excuser? Et puis, qu'est-ce que vous faites quand vous êtes interpellé par quelqu'un, mais vous le reconnaissez pas? Alors, j'ai décidé de faire deux petits sujets. Je commence par dire salut à Jean-François Dussault, qui, sur sa page Facebook, a nommé ses 5 podcasts préférés. Sous-écoute, François Bellefeuille, Angle Mort. Le 4e, je le connais pas. Je le nommerais bien, mais je l'ai oublié. Puis, finalement, Joe Rogan. Ça fait qu'on passe après. Non, mais c'était 4 podcasts québécois, puis Joe Rogan en 5e. Alors, Jean-François Dussault, mesdames, messieurs, très gentil, comme barbu de ville. Et les gens, maintenant, je vais saluer tout le monde qui parle de mon podcast sur leur page Facebook, Twitter ou autre. Ce sera maintenant une habitude que je vais prendre parce que c'est très apprécié. C'est très gentil de votre part. Premier sujet... C'est tiré d'un article dans la revue Slate qui disait qu'il y a du monde qui sont capables de reconnaître les visages plus facilement, puis il y a des gens qui reconnaissent les voix plus facilement. C'est un don, hein? C'est comme dans le domaine de la parfumerie, il y a ce qu'on appelle des nez. Vous allez dire, ils ne se sont pas forcés pour trouver le nom, mais celui qui, dans un laboratoire, est réputé avoir un sens olfactif très avancé, son métier, c'est être un nez. C'est-à-dire que lui, il est capable, tu sais, de... Il y a ce talent-là de définir ce que ça sent, puis ça, c'est une rose, ça, c'est une épice, etc. Il peut définir. C'est comme ce qu'on appelle l'oreille absolue. Hein? L'oreille absolue, moi, ça me fait halluciner. Vous savez, c'est quoi l'oreille absolue? C'est comme, par exemple, à part être daltonien, tout le monde est capable de dire, bon, j'ai mon ours AEW, là, il a son chandail orange, c'est orange. Le reste de ses pattes, ses mains, c'est brun. Sa tuque, c'est gris. Actuellement, il y a Godzilla à télé, le monstre, il est gris-vert. Tu sais, il n'y a aucune réflexion pour voir instantanément une couleur. Ben, les gens qui ont l'oreille absolue n'ont aucune réflexion pour entendre une note. Tu vas siffler n'importe quoi. Lui, il te parle. Do, ré, ré, la, fa, fa, la. Mais moi, je ne l'ai pas, là. C'est comme hallucinant. Ils ont l'oreille absolue. Ils reconnaissent la note tout de suite, peu importe l'instrument. Pour eux autres, une note, un do, là, pour eux autres, c'est comme toi pis moi, la couleur rouge. Fait qu'il y en a qui sont capables d'avoir l'oreille, qui ont, tu sais, des sens comme plus développés. Et ça m'a fait penser à l'idée que j'ai toujours eu une politique, moi, qui date de quand j'étais sur la rue Pradi à Charlebourg. Parce que je me promenais en vélo, puis alors, je vous explique. Quand je suis arrivé en secondaire 3... J'ai eu des problèmes de vision. Puis, j'avais commencé par m'approcher un peu dans la classe du tableau comme tel. Puis finalement, un examen de la vue a démontré que j'avais besoin de lunettes. J'ai commencé à porter des lunettes à 15 ans, je pense. Il me semble que c'est ça le souvenir que j'ai, à 15 ans. Et pour les grands curieux, j'ai commencé à perdre mes cheveux à 20 ans. Bon, voilà, je savais que la question vous brûlait. Mais avoir une mauvaise vision, entre guillemets, donc la myopie, c'est-à-dire que j'ai toujours encore aujourd'hui vu très, très bien de proche. J'ai absolument pas besoin de lunettes pour lire. J'ai besoin de lunettes progressives, c'est-à-dire une première zone pour l'ordinateur, donc un peu plus loin que où on met un livre ou un journal. Et puis pour de là jusqu'à l'infini, ça, j'ai besoin aussi d'une autre force. Donc d'où les verres progressifs. Ça fait que, qu'est-ce qui est arrivé, c'est que moi, je faisais du vélo, je me promenais dans le quartier, je me promenais un peu partout, puis souvent, je me faisais interpeller par du monde que je reconnaissais pas parce que je portais pas mes lunettes. Parce que quand t'as... C'est comme aujourd'hui, moi, j'ai autour de 3,5, 3,25 puis 3,5, là, les deux yeux sont pas pareils. Mais à l'époque, tu commences, t'as comme 0,1, tu sais, je veux dire, c'est pas grand-chose, c'est juste pour dire que c'est un peu flou au tableau si t'es dans le fond de la classe, là, vous voyez le genre. Ça fait que je me promène en vélo, je me souviens très bien, puis là, tout à coup, ben je reconnais grosso modo une silhouette, mais... Ça fait que là, « Hey, Marc, salut! » Puis là, moi, déjà, à cet âge-là, je me suis dit, parce que je trouvais ça... Tu vois des fois des gens que tu salues, puis là, ils regardent, puis ils te reconnaissent pas, puis ils regardent, puis ils regardent, puis je me disais, en tout cas, j'ai eu cette réflexion-là tôt, de me dire, « Pourquoi vous voulez absolument me reconnaître? Manifestement, moi, je vous connais. Pourquoi vous faites pas semblant que vous m'avez reconnu? » C'est que je trouve ça, je comprends pas. C'est comme, ça vous, c'est comme quoi? C'est comme quand quelqu'un se trompe de numéro de téléphone. Quelqu'un se trompe de numéro, ça fait qu'il va demander Martin, OK? Vous remarquez, tout le monde fait ça. OK, t'appelles, à quelque part, ça sonne. Oui, allô. Martin, s'il vous plaît. La personne, s'il n'y a pas de Martin, elle va vous dire, Martin, Martin qui? Donc là, Martin Brouillard. Ah, il n'y a pas de Martin Brouillard. Mais moi, chaque fois, je me dis, attends une minute, là. Si je demande Martin, puis qu'il n'y a pas de Martin à ce numéro-là, puis tu sais, maintenant, chacun son numéro, puis comme dans le temps, quand j'étais jeune, qu'on avait un téléphone pour toute la maison, puis tout à coup, Pierre, téléphone pour toi, André, téléphone, raccroche, je veux prendre le téléphone. On avait une ligne, tu sais. Là, maintenant, le monde, ils ont leur numéro de téléphone. Ben, t'as encore des téléphones à la maison, mais je veux dire, règle générale, chacun a son cellulaire, tu sais. Mais, si moi, quelqu'un appelle puis demande Denis, ça me donne quoi de dire Denis qui? Il n'y en a pas de Denis. J'avais déjà callé une madame de même. La madame, elle appelle. Elle dit, parle à François. Ça fait que, non, c'est moi qui appelle, c'est ça. Je dis, mettons, François, s'il vous plaît, la madame. François? François qui? Puis là, je reste bien tranquille. Je dis, madame, y a-tu un François chez vous? Non. C'est que pourquoi François qui? Je me suis dit, je l'ai callé live. C'est, pour moi, ça me dépasse. Ben, c'est la même idée que quelqu'un que tu reconnais pas. Si tu le reconnais pas, c'est quoi l'importance? Lui, il te reconnaît. C'est que ça donne quoi que tu saches c'est qui pour lui renvoyer sa salutation? Je l'ai l'image en tête. Là. Je suis en vélo, je vois, je pense que c'est le frère d'Hélène quelque chose qui vivait avec qui était dans ma classe. C'était comme son frère plus jeune. Puis là, hey Marc, salut! C'est que là, moi, j'y envoie un grand salut, mais voyez-vous, 40 ans plus tard ou 35 ans plus tard, je sais toujours pas si c'est vraiment lui. Ouais, pis, lui m'a fait salut, mais salut. C'est tout. Au pire, je le reconnais pas, que ça change. Ça fait que je me demandais, je suis juste curieux de savoir c'est quoi votre politique quand vous reconnaissez pas quelqu'un qui, lui, vous reconnaît. Moi, je fais semblant. D'ailleurs, quand c'est vraiment, par contre, live, en personne, dans le bureau, là, quelqu'un que, manifestement, tu te souviens peut-être juste plus du nom. Tu sais très bien c'est qui, mais c'est quoi son nom, là? J'ai un super truc pour vous autres, vous allez capoter. Le truc, c'est que tu dis, à chaque fois que tu ne te souviens pas du nom de quelqu'un, tu fais juste dire, hey, rappelle-moi ton nom. La personne va inévitablement dire son prénom. La personne va dire Paul. Et là, vous autres, très wise, vous dites, non, Paul, je sais, mais ton nom de famille, je ne me souviens plus. C'est que là, il va dire Paul Bouchard. Mais sauf qu'il vient de vous dire que c'est Paul et vous l'aviez oublié. Ha ha! Excellent truc. Donc, vraiment, tout ça pour dire que dans mon contact avec les autres, je me soucie pas que ça soit tout le temps donnant-donnant. Je me soucie juste de savoir que le contact est fait. Tu sais, comme à la lutte, là, Andor Carpentier disait ça. Le contact vient de se faire. C'est que c'était comme le premier, l'échange. Puis c'est à peu près toujours pareil, hein. Pour ceux qui connaissent la lutte, c'est toujours un move où que tu mets ta main gauche en arrière de la nuque, puis ta main droite pour ramasser le bras de la personne qui fait la même chose l'autre bord. Fait que c'est comme si c'était un peu genre, on se tient chacun la tête, là, mais t'as la main sur l'avant-bras, puis l'autre main est en arrière de la nuque. Ça commence presque toujours de même, un combat de lutte. C'est que c'est un contact. C'est le contact initial. Le reste devient beaucoup plus facile. La première vitesse, c'est pour tout le monde, ce qu'il y a de plus tough. C'est-à-dire, le premier contact qui fait que tout à coup, on est lancé dans une conversation, puis une communication. Ça fait que moi, je trouve ça, ça marche pas dans ma tête. Je comprends pourquoi c'est de même, mais je fais juste dire, il n'y a pas de bonne raison de vouloir absolument reconnaître quelqu'un, t'as l'affaire, ça jette une douche d'eau froide, tu sais, t'as quelqu'un qui te dit salut, puis t'as l'affaire. Alors, ça m'a juste fait penser à ça, c'était mon petit sujet préliminaire. Mon vrai sujet aujourd'hui, ça part d'une nouvelle en France, c'est un politicien qui était ministre de l'Intérieur sous François Hollande, il s'appelle Manuel Valls. Puis finalement, bon, il s'est pas fait réélire, il a essayé de se présenter aux élections, ça n'a pas passé. Puis c'est un gars d'origine espagnole, il s'est présenté pour être maire de Barcelone, ça n'a pas passé. Il a eu une mauvaise passe, il a sorti un livre récemment, puis il s'excuse de certains comportements, pas des affaires personnelles, mais tu sais, genre, il dit qu'il y a eu une passe difficile à ce moment-là, puis ça a eu l'air pour les Français qui se sauvaient de la France, alors que c'est un Français, tu sais, il est juste d'origine espagnole, puis telle affaire. Puis je me disais, quand est-ce qu'on s'excuse? On fait tous des bourdes. Hein? Moi, vous savez, ma définition de l'amitié, les vrais amis, c'est ceux qui acceptent les excès de leurs amis. C'est ça, l'amitié. L'amitié, là, c'est pas « je peux lui demander n'importe quoi à 3h du matin si ça va mal. » Non, ça, c'est 911. Tu fais 911, tu laisses faire tes amis, t'appelles la police, les ambulanciers, t'appelles ce qu'il faut, ton pharmacien, ton docteur. Tu lâches tes amis tranquilles. C'est pas eux autres qui sont pas là en cas d'urgence. Là, c'est faux. Je le comprends, là, le critère, mais ça n'a pas de sens. Ça arrive tellement jamais que si vous basez vos amitiés, soi-disant, sur « en cas d'urgence, casser la vitre », je trouve ça complètement zéro. Non, vos vrais amis sont ceux pour qui, tout à coup, vous faites la coche de trop, puis ils disent « oh, c'est pas grave, regarde, moi aussi j'en fais, puis telle affaire ». Alors que quand vous n'êtes pas des vrais amis, pour toutes sortes de raisons, ça peut être parce que vous êtes dans une relation intéressante, mais qui est disproportionnée, il y en a toujours un qui jase, il y en a toujours un il y en a un qui donne, l'autre qui reçoit, il y en a un, tu sais. Il y a toutes sortes de débalancements même, qui peuvent durer longtemps, puis un jour, tu fais comme « ça me tente plus ». Ça n'a juste plus rapport. Ça fait qu'outre ça, il y a quelques personnes pour qui les excès, vous savez, qu'ils vous sont pardonnés, puis vous allez faire pareil. Puis des fois, c'est pas réciproque. Un est prêt à le faire, pas l'autre, puis c'est la fin d'une amitié. Ça fait que quand est-ce qu'on s'excuse? Moi, j'ai une politique très claire par rapport aux excuses. Très, très claire. À date de quand je travaillais à Juste pour rire avec Diane Séguin, quand je suis arrivé à Montréal, où est-ce que je lui avais dit... Là, je vous parle du système, mais après ça, vous allez voir, je l'ai mis, si tu veux, dans l'idée de quand est-ce qu'on s'excuse. J'avais dit, moi, je vais avoir tout le temps des idées, des projets à proposer. Dans la mesure où je sais que tu les écoutes réellement puis que tu les considères, étant donné que c'est toi le boss, tu vas toujours trancher, ça va de soi. Puis quand tu vas trancher, moi, je vais aller du bord que tu tranches. Mais ça va être difficile si j'ai l'impression que tes idées sont toujours faites d'avance puis que si un projet rentre pas dans tes idées faites d'avance, ça passera pas. Fait que j'ai toujours eu cette espèce de mentalité-là. Et puis je l'ai transposé aux excuses. C'est-à-dire que moi, je m'excuse instantanément si je fais quelque chose qui est blessant, qui est poche, que j'aurais pas dû faire ou peu importe. C'est pas moi le juge de mes excuses. C'est pas moi. C'est l'autre qui décide si à quelque part j'ai fait quelque chose qui lui déplaît puis que j'aurais pas dû faire. C'est pas moi qui juge ça. Par contre, j'ai l'excuse facile, mais j'exige qu'on me laisse expliquer pourquoi. Ça peut être aucune bonne raison, ça peut être juste « désolé, je t'ai gazé, c'est zéro ». Ça peut être n'importe quoi, mais moi, c'est une exigence. C'est-à-dire que j'ai aucun problème à parler d'une gaffe que j'ai faite si je vois qu'elle a blessé quelqu'un. C'est l'état d'âme de la personne en face de moi qui décide si je m'excuse parce que jamais je cherche à blesser quelqu'un. Je pense vraiment pas être de même. Je peux être dérangeant, je peux être irritant, parce que je suis quelqu'un qui se prononce. Mais de dire, moi, vraiment, mon but, là, c'est cette tabarde, là, je vais y dire de quoi, j'espère que, tu sais, comme ce qu'on peut voir sur les médias sociaux, je suis à l'antipode. J'ai jamais été là-dedans. Je suis pas dans une mouvance du tout d'attaque ou de rabaisser. Je suis pas là. Ça existe, mais à la rigueur, même, je suis même pas vraiment témoin de ça. Ça fait que je laisse les autres juger si je les ai blessés. Par contre, je dois absolument dire pourquoi c'est arrivé. Parce qu'étant donné que je connais mes intentions, si c'est arrivé, ça veut dire que là, il y a eu un problème de communication. Maintenant, ça pose la question à savoir, est-ce que tout le monde gagne à s'excuser? Puis là, on va prendre l'exemple des politiciens sur lequel j'ai une théorie. Je pense que selon tes allégeances puis à quel type d'électorat tu parles, je crois que des excuses sont de mise pour un camp et non pas dans l'autre. Je crois que si tu es quelqu'un qui tire à gauche, donc que tes électeurs sont à gauche, une excuse est importante, même payante, pour montrer un degré de vulnérabilité qui est une valeur qui est appréciée par des gens qui finissent par être à gauche. Je crois que l'autre côté, c'est l'inverse. En un mot, Donald Trump ne s'est jamais excusé de quoi que ce soit. De tout ce qu'il a dit, de tout ce qu'il pouvait fantasmer, de n'importe quoi. Il s'est jamais excusé. On sent que jamais il va s'excuser. Et je suis convaincu que l'électorat de Trump, le très MAGA foncé calotte rouge pour qui il représente quasiment un fait religieux, et même pour l'électorat républicain en général, pour qui Trump, c'est loin d'être leur idole, mais qu'est-ce que tu veux, c'est lui qui tient le parti. Je pense que ces gens-là associent l'excuse à la faiblesse. Je pense que c'est une grande partie de la pensée de droite d'associer l'excuse à la faiblesse. Ça fait que moi, si j'étais un politicien à droite, je m'excuserais jamais. Je justifierais tout ce que j'ai fait. Jamais je m'excuserais. Puis si j'étais un politicien à gauche, je ferais par exprès pour m'excuser. Pas sur une base régulière, pas à la Justin Trudeau, genre, qui se déguise là quand il va, puis tout ça, puis qui devient burlesque. Mais juste quand, à un moment donné, de dire... Puis quand je dis excuser, le mot est peut-être fort. D'avouer une erreur. S'excuser en politique, très tristement, je pense que c'est peut-être jamais payant. Très tristement. Ça en dit long sur la façon qu'on perçoit des excuses. C'est comme si entre amis, c'est possible. Puis à partir du moment où c'est quelqu'un qui a une figure d'autorité, d'après moi, là, très honnêtement, c'est jamais payant. Ça peut être éthiquement très bon, moralement très valable, ah, bravo. Mais au final, là, il y a une petite touche de mépris, je pense, si quelqu'un commence à faire son faiblard. Je le vois de même. Je le vois de même. Je peux pas vous dire que c'est appuyé sur autre chose que juste mes antennes. Mais oui, de dire « je me suis trompé là-dessus, puis voici comment je vais faire pour rétablir la situation », l'idée, c'est de toujours finir par avoir la bonne affaire. Comme je dis tout le temps, moi, dans la vie, je veux avoir raison. Si pour avoir raison, il faut que je dise comme toi, qui est le contraire de ce que je pensais, mais que finalement, c'est toi qui as raison, ben je dis comme toi, puis j'ai raison. Ça fait que ça, tu voyez-vous, c'est pour montrer à quel point la communication en politique... Moi, vous me faites tous rire, tous et chacun, là, tout le monde, quand vous dites « on sait bien, les politiciens nous comptent des mentries, telle affaire. » Ils n'ont pas le choix. Ils ont zéro le choix. Si un politicien totalement transparent qui dirait « je me suis trompé là-dessus, ça je trouve que ce bout-là c'est complètement absurde », juste dire une vérité observable par tout le monde, là, ça serait un échec cuisant. Ça serait épouvantable. Patrick Lagacé a parlé des édentés, où est-ce qu'il expliquait, selon lui, sa théorie, c'est que toute la gang de complotistes qui a émergé, qui est sortie du sous-sol, comme je dis souvent, pour parler dans le salon avec les grandes personnes pendant la pandémie... Il y en a plein là-dedans qui n'ont pas de dents. C'est vrai, on l'a remarqué. Pourquoi? Parce que c'est des raides pauvres puis qui, finalement, ont une existence. Ils existent tout à coup sur YouTube, on parle d'eux autres, etc., alors qu'avant, ils sont dans le sous-sol en train de faire les job-ins du bar et telle affaire. Mais tout ça a été vu comme la chronique la plus condescendante du monde. Patrick Lagacé s'en prend au pauvre monde, etc. Moi, je l'ai lu, sa chronique, elle m'a effrayé en rien. C'est une théorie. Ça représente... tous ces gens-là, ou seulement une partie, je ne sais pas. C'est quand une théorie, ce n'est pas un principe. C'est-à-dire, on pense quelque chose, puis on le propose. Puis après ça, c'est défaite, ou bien c'est confirmé, point barre. Ça fait que ça a été vu. Alors, est-ce que le gars a, à quelque part, une tendance élitiste? Bien sûr. Oui, OK. C'est pas pire que d'avoir une tendance populiste, je suis désolé. Puis, sauf que ça a été perçu comment? Ben parce que ça a été perçu juste avec la petite aura de condescendance, puis tout le reste, c'est comme, c'est pas important. Puis parler à la population en général, c'est parler de même. C'est parler avec tout le temps des sensibilités. Montesquieu disait « les mœurs sont plus fortes que les lois ». Depuis que j'ai entendu ça, la semaine passée. C'est fait, quelle grande phrase! C'est exactement ça. Fait qu'à partir du moment où tu es irritant, ça veut pas dire que tu es faux. Ça veut juste dire que t'es irritant. Ça veut dire qu'on prend ce qu'il y a dans ton propos puis on fait ça me fâche. Let's go, on paye sur le bouton. Bon. Ça fait que donc, c'est la question à se poser. C'est-à-dire que dans la vie en général, quand est-ce qu'on s'excuse? Puis moi, je vais terminer par une chose. C'est que les gens qui ont un gros orgueil, des gens avec un gros orgueil, et en passant, les humoristes font partie de ce groupe-là. Les humoristes sont énormément orgueilleux, ont beaucoup de misère avec la critique. Tu peux reconnaître quelqu'un de très orgueilleux parce que il y a deux affaires qui manquent dans son discours. Il manque d'excuses, puis il manque de remerciements. Règle générale, là, pour beaucoup de monde, remercier, puis s'excuser, ça vient avec un coût. Il y a un coût à dire merci, puis il y a un coût à s'excuser. Or, il n'y en a aucun. Ça coûte absolument rien de dire merci. Moi, je me souviens, je nommerai pas l'artiste avec qui je travaillais. Je pourrais, c'est pas grave, c'est pas énorme, mais quand même, je le nomme pas. Mais j'étais en train de l'accompagner à... une émission, un talk show de TVA qui était, je pense c'était avec Jean-Pierre Coallier. J'oublie le nom, là, mais ceux de mon âge s'en souviennent. Puis tout à coup, son writer est arrivé. Il venait de commencer à travailler avec un nouveau scripteur. Puis là, il dit textuellement, il dit « Wow! » Mettons, je vais l'appeler Paul, parce que les deux sont connus. Il dit « Wow! » Paul, je suis là. Il dit « Caroline, c'est vraiment cool que tu sois là. » Il dit, Boilard, lui, il faut qu'il soit là, c'est dans sa job, mais toi, t'avais le choix. Puis là, j'ai fait, c'est extraordinaire, de un, je suis zéro obligé. Moi, j'allais où je voulais, j'accompagnais mes clients ou pas, point barre. C'est que tu vois, c'était comme, il y avait un prix, là. Lui avait le choix de venir. Donc, vu qu'il avait le choix de venir, c'était plus méritoire que moi qui, dans sa tête, je devais être là. Non, c'est pas de même, ça marche. Dans les deux cas, tu dis merci. Tu dis merci. Parce que ça coûte rien dire merci, puis ça fait plaisir. Fait qu'après ça, si secrètement tu veux trouver qu'il y a un merci qui est plus lourd que l'autre, OK. Mais ouvertement d'aller dire ça de même, excusez-moi, là, je m'en souviens encore parce que, peut-être pas que j'avais été bouleversé, mais ça avait cristallisé un peu ce que je vous raconte un matin, mon espèce de politique de s'excuser puis de dire merci. Donc, vous remarquerez là, que les gens qui ont de la misère à s'excuser, là, pensez à ça, là, ben, ils ont de la misère à dire merci. Pensez à ça, donnez-moi des nouvelles. Salut, bonne journée.